Mais tout de suite, comment lire le mythe de Casanova aujourd'hui? C'est la question que nous mettons sur le grill avec vos invités, Nicolas Martin.
Le mythe raconte, le mythe explique, le mythe révèle. Ainsi, dans l'histoire de Don Juan, la statue de pierre est l'élément sacré qui constitue Don Juan comme un mythe. Loin de ce mythe littéraire de Don Juan, Casanova serait un être non mythique. Pourquoi alors la vie de Casanova est une image force, capable d'exercer une fascination collective? Qu'est-ce qui se joue derrière la tentation de mythifier la vie exemplaire d'un Casanova? Que signifie le mythe du mythe de Casanova? Inversement, de quel sens est porteur la volonté de démythifier, de démystifier Casanova? En somme, comment lire le mythe ou le non-mythe de Casanova? Pour approcher ces questions, deux casanovistes, le neurobiologiste Jean-Didier Vincent et le psychiatre Jacques-Antoine Malarevitch. Jean-Didier Vincent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes neurobiologiste, professeur à l'Institut universitaire de France, directeur de l'Institut Alfred Fessard du CNRS à Gif-sur-Yvette. Vos livres sont publiés chez Odile Jacob. Alors, après avoir mis en scène des rongeurs dans la biologie des passions, puis Casanova dans Casanova, la contagion du plaisir, vous, Jean-Didier Vincent, êtes au cœur de La vie est une fable, votre dernier livre. Alors, des rongeurs à Jean-Didier Vincent, en passant par Casanova, votre recherche se fait toujours plus audacieuse, plus complexe, Jean-Didier Vincent.
Oui, j'ai écrit aussi, parce que j'approche l'âge canonique où Casanova a commencé ses mémoires, j'ai écrit l'histoire de ma vie, mais de façon plus brève, puisque ça porte sur les 3 milliards d'années de ma vie. Donc, évidemment, je me ne rappelle que des derniers épisodes, ce qui commence vers mes 5 ans, comme moi aussi, mais avant, c'est très intéressant, parce que pratiquement, on partage les mêmes antécédents. Donc, c'est cette histoire que je raconte. Je revis, comme Casanova, ce qui s'est passé du temps où j'étais un petit mammalien au milieu des dinosaures, quand j'étais poisson, quand j'étais une cellule, quand j'ai connu ma première mitochondrie, etc. Enfin, toute une série de choses qui me remettent dans des situations que depuis j'ai revécues dans ma dernière apparence terrestre.
Jacques-Antoine Malarevitch, bonsoir. Vous êtes psychiatre, thérapeute familial, directeur d'une collection Communication et complexité aux éditions ESF. Votre prochain livre chez Lafond devrait s'intituler « Le couple, 14 définitions décourageantes, donc très utiles ». Casanova, c'est votre oxygène ?
Oui, pour moi, mais pas pour mes patients, heureusement. De toute façon, Casanova, c'est un homme extraordinairement solitaire, mais très très bien entouré. Et il n'y a pas à proprement parler de couple chez Casanova. Il y a des liens, il y a des relations, et puis lui, c'est un rongeur de vie. Enfin, je pense qu'on y reviendra.
Alors, on va y revenir. Alors, Jean-Didier Vincent, mythe ou non mythe, en choisissant d'analyser donc la vie de Casanova à la lumière des découvertes de la neurobiologie, vous procédez plutôt, entre guillemets, à une déconstruction du mythe de Casanova. Reste que ce travail, à partir du moment où il y a déconstruction, présuppose l'existence d'un mythe de Casanova. Et d'ailleurs, mythe au sens où, pour vous, c'est ce que vous dites dans votre livre, cette vie est emblématique de quelques ressorts essentiels de notre comportement. On va y revenir, comme le sexe, l'ennui, le rapport au temps, etc. Mais exemplarité d'une vie qui fascine à la façon d'un mythe, Jean-Didier Vincent.
Non, j'ai voulu justement... Le mythe m'embarrasse. Le mythe de Casanova, comme la plupart des casanovistes, d'ailleurs, s'acharne à démonter le vice de Casanova. C'est presque une activité obsessionnelle chez les amoureux de Casanova que de démontrer que ce qu'il a écrit est vrai. Et si on tient tellement à dire que cela a été vraiment vécu, même c'est souvent arrangé dans l'histoire, c'est pour montrer qu'il n'est pas un mythe. Vous voyez, c'est un peu ce qui s'est passé pour le Christ, mais enfin, toute proportion gardée. Mais pour Casanova, moi, j'étais embarrassé parce que j'avais besoin d'un rat qui soit un homme, c'est-à-dire un rat vivant. Or, le miracle ne se produit pas souvent en littérature. C'est de donner naissance à une œuvre qui est un produit vivant. C'est plus un personnage, Casanova. Quand il a réécrit, quand il a fait sa revie, comme il dit, alors qu'il était vieux et qu'il avait toutes ces choses-là dans sa tête, il a recréé un Casanova. Le Casanova, ce n'est pas un Casanova de mémoire, c'est un Casanova de revie. Donc, par le miracle de son génie littéraire, on a devant soi un être vivant. Ce qui fait qu'on peut l'observer peut-être avec la même précision que si l'on avait un rat dans une cage de comportement. Simplement, c'est lui qui s'observe, c'est lui qui se décrit. Et il se décrit avec une absence totale de complaisance et une vie qui est... C'est l'homme le plus vivant de son siècle, disait le prince de Ligne, qui se connaissait lui aussi en vivant. Et je crois que l'homme le plus vivant d'un siècle, qui est probablement le plus vivant de tous les siècles auxquels on est accès, ça me donnait peut-être un matériel. Et je ne portais pas atteinte au mythe, puisque, une fois de plus, le mythe me paraît superfétatoire.
Alors, Jacques-Antoine Malarivitch nous dira tout à l'heure ce qu'il a pensé de votre livre. On va y revenir, mais restons sur cette question mythe ou non mythe avec vous, Jacques-Antoine Malarivitch. Donc, vous m'avez dit, il n'y a pas de mythe, Casanova. Il est la normalité même. Et donc, pour le psychiatre que vous êtes, est-ce qu'on peut quand même pas dire une normalité tellement exemplaire qu'elle confinerait au mythe ?
Non, pas du tout. Le mythe, par exemple, de la séduction, c'est Don Juan. Mais c'est clair que quand on lit Casanova, il y a de la chair, il y a des fluides. C'est extraordinairement humain, donc il n'est en rien un mythe. Peut-être qu'il est un mythe à d'autres niveaux, peut-être celui du XVIIIe siècle, celui de Venise, dont il a eu l'intelligence de partir. Et puis surtout, je crois qu'il est le mythe de celui qui écrit sa vie en vivant. C'est-à-dire, il y a une boucle qu'il referme extraordinairement bien, et il est le seul que nous sommes en train de redécouvrir dans une grande mesure.
Mais est-ce que vous donnez compte du fait, comme le dit d'ailleurs Jean-Didier Vincent dans son livre, qu'il peut y avoir de l'élaboration de la part de l'écrivain, justement, dans la présentation de son propre personnage ? Quand vous dites qu'il est très humain, il est très humain tel qu'il se présente,
oui. Oui, parce qu'il montre ses travers, il montre ses réussites, ses défaites. Ses histoires de femmes sont relativement... Ça fait un tiers du récit. Bon, il y a bien d'autres choses chez Casanova. Donc je pense qu'il y a peu d'élaboration, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de, puisque vous interrogez le psychiatre, qui est de l'ordre d'une psychothérapie, où effectivement il passe quelques années de sa vie, les dernières, à réécrire, à revivre, avec des détails quand même extraordinairement importants.
Alors Jean-Didier Vincent, psychothérapie...
Si je peux me permettre d'intervenir, c'est pas du tout une psychothérapie, c'est vraiment une volonté de revie. Il veut revivre parce qu'il n'a plus d'autres moyens de vivre. Pendant toute une partie de sa vie, il a fonctionné dans l'instant, c'est-à-dire qu'il a tourné le dos à la durée, et chaque fois que la durée risquait de s'installer, aussi bien dans ses histoires d'amour, il y avait le départ qui intervenait, ou la vérole, ce qui est une autre façon de remettre le pays en ordre. Mais si vous comparez des mémoires à celles de Daponte, par exemple, cet usurpateur qui s'est fait passer pour l'auteur de Don Giovanni. Eh bien, si vous comparez les mémoires d'Aponte, mais c'est pisseux, les mémoires d'Aponte, c'est triste, c'est des ragots, c'est mesquin, ce type, moi je le compare à c'est l'ancêtre des pisaïoles de New York, il est émigré là-bas, c'est le premier Ital de la Little Italy de New York, et ce pauvre d'Aponte écrit des mémoires minables, il faut bien le dire, elles sont tristes ou nettes, ces mémoires, parce que justement, il n'a aucun talent littéraire, parce que ce scribouillard, ce plumitif, n'est capable que de raconter de vagues anecdotes et ne leur donne pas de vie, parce que Daponte n'existe pas. Daponte n'existe pas, alors que Casanova existe. Il a été créé de toute chair, si je puis dire, par un écrivain génial, un des plus grands du XVIIIe siècle.
Donc il crée son propre mythe, d'une certaine façon.
Qui a créé, non pas un mythe, mais qui a créé cette chose incarnée, et incarnée presque avec l'immortalité, qui s'installe dans la durée, qui s'appelle Casanova, l'auteur et le héros de l'histoire de ma vie.
Jacques-Antoine Malarivitch.
De toute façon, il crée son double, en fait. C'est-à-dire, il crée
sorte
son...
de double, oui, mais un double pour la durée.
Oui, parce que le double caractérise le mythe, souvent. Enfin, c'est Leporello et Don Juan. Et là, on se trouve en face d'un personnage écrit, et on est sans cesse à la recherche de ce qu'il était. Je voudrais revenir sur la psychothérapie. Effectivement, encore une fois, on m'interroge en tant que psychiatre, donc je me sens un peu obligé de faire référence à ce que je suis censé savoir. Mais c'est quand même sur les conseils d'un médecin, alors qu'il s'obstinait à faire des mathématiques dans son château en Bohême, qu'il rédige effectivement ses mémoires, avec apparemment, encore une fois, beaucoup de détails. Il a probablement pris des notes toute sa vie à cette fin. C'est quand même quelque chose qu'il a déjà construit dans sa tête pendant de nombreuses années.
Il a des capitulaires où il écrit.
Tout à fait.
Alors, Jacques-Antoine Malarivitch, vous le rappelez, vous êtes psychiatre. Alors, deux questions quand même que je ne voudrais pas passer sur silence. C'est la question de la mère et du père. Savoir ce que vous avez
bien
en dire, puisque faisant référence notamment à Lydia...
Oui, alors il a une mère.
Attendez. Lydia Flem, qui est psychanalyste et qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Casanova ou l'exercice du bonheur. Et elle nous explique que Casanova idéalisera sa mère pour échapper à la douleur de son absence. Et finalement, toute sa vie, il cherchera l'écho enchanteur des acclamations d'une mère absente. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de l'influence de cette mère qui aurait pesé sur son existence ? Et Lydia Flem a une très belle formule. Sa mère est comédienne sur scène. Casanova sera acteur dans la vie.
Bon, il n'y a pas que la mère, il y a le père aussi.
On oui, j'allais y venir. Restons, parlons de la mère d'abord.
On peut parler du sang qui revient sans cesse dans ses écrits. On peut parler de cet épisode tout à fait étonnant d'un vol dont il laisse accuser son frère.
Jacques,
on peut le comparer à Rousseau, par exemple, avec ses rubans qu'il vole. On pourrait le dire aussi que c'est un bâtard, peut-être, finalement, comme Voltaire. Donc, il y a bien des raisons d'accrocher, effectivement, des explications psychanalytiques ou psychologiques. Je crois que c'est tout autant réducteur que le voir comme un être biologique, par exemple.
Mais vous savez,
Vincent.
Casanova donne du talent à ceux qui écrivent sur eux, même aux psychanalystes.
C'est vrai, tout à fait. Il y a aussi,
Et donc, c'est vrai que François Roustan a écrit un livre tout à fait merveilleux sur un excellent livre où il tourne un peu le dos à la psychanalyse. Bon, l'explication est trop facile. Je dirais que Casanova est tellement vivant que les psychanalystes ne peuvent pas manquer d'y trouver leur compte. C'est vrai que sa relation à la mère, il va faire des véroles en face de sa mère, par exemple. Il revient quelquefois vers sa mère. Et puis Venise, la métaphore de la mer, bien sûr, etc. On peut broder. Justement, tout le talent de Roustan est d'éviter le psychanalyse fasciste. Ce que ne fait pas quelqu'un comme Maragnone ou des gens comme ça, ou Torrent, qui sont odieux avec Casanova. Parce que quand le psychanalyste se met à parler en psychanalyse de Casanova, il en fait soit un PD, soit un obsédé sexuel, voire un malade.
Un incestueux, surtout.
Un incestueux qui est épouvantable, le pire crime, on le sait. Alors,
ouvrons le chapitre, vous venez d'en parler, Jean-Didier Vincent, des véroles. Bon, juste avant, selon vous, Jacques-Antoine Malarevitch, Casanova, maître à souffrir, expression de Jean-Didier Vincent, ou bien maître à jouir, selon l'image d'Épinal?
D'abord, la maladie pour lui, c'est pas vraiment une interruption parce qu'il passe son temps, il s'en sert quasiment pour s'observer lui-même. C'est-à-dire, il se sert comme il l'a fait toute sa vie pour observer ce qui se passe dans son corps, comme dans ses relations avec les autres. Donc, il n'y a pas d'interruption en fait réellement dans ses maladies. Et puis, la chose la plus surprenante à propos de cette vérole, c'est qu'il y a survécu. C'est quand même une chose tout à fait étonnante. Il a eu 6 ou 7 fois, voire davantage.
12 dans les mémoires, mais
ils sont dénombrés et détaillés dans le livre de Jean-Didier Vincent.
Mais il n'est pas mort de la vérole.
Mais Jacques-Antoine Malarevitch, je voudrais quand même vous entendre sur cette idée, et je vais donner la parole à Jean-Didier Vincent dans un instant, selon laquelle la personnalité, le sujet Casanova, se construit en quelque sorte dans le feu de ces véroles, qui seraient autant de fécondes mises à l'épreuve du corps et autant de métamorphoses de l'âme. Est-ce que vous partagez entièrement cette idée, Jacques-Antoine Malarevitch?
Symboliquement, oui, bien sûr, parce que, je veux dire, c'est...
Et autrement que symboliquement.
Oui. Non, mais, je veux dire, tout dépend du statut de la maladie. On peut aller très loin avec sur cette notion. C'est-à-dire, est-ce que la maladie est l'inverse de la vie? Est-ce que la maladie est effectivement dangereuse? Je pense qu'il l'a utilisée. Donc, je ne trouve pas qu'il soit plus un maître de plaisir qu'un maître de souffrance ou de douleur.
Les deux vont ensemble, de toute façon.
Tout à fait. Ça se rejoint, là aussi, c'est de l'ordre d'une réduction. Mais, par exemple, ce qui est tout à fait surprenant, moi, j'ai parlé de Casanova autour de moi, et puis quelqu'un m'a dit « Ah oui, c'est celui qui a eu la vérole plusieurs fois ». C'est-à-dire, finalement, c'est la lecture qu'on peut avoir actuellement par rapport au sida. C'est-à-dire, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de lire effectivement Casanova au travers du sida.
Alors Jean-Didier Vincent, je voudrais qu'on revienne sur cette idée. Casanova se construit dans la maladie. Je sais bien que ça ne vous a pas traversé l'esprit, mais néanmoins, est-ce que l'arrière-pays de cette idée n'est pas aussi, ne flirte pas, disons, avec une vision rédemptrice de la maladie?
Casanova, c'est un malade qui se porte bien, voilà.
Oui, malade en bonne santé.
Il est toujours dans cet état d'équilibre instable qui peut se définir soit comme la santé, soit comme la maladie, c'est-à-dire un état qui vient d'un compromis entre le plaisir et la souffrance qui doit arriver de temps en temps. Alors, il a probablement, comme c'est un homme qui est très organisé, Casanova, c'est pas un fou qui va au hasard, contrairement à ce qu'on croit. Il bondit, mais il sait où il a l'intuition de l'endroit où il va retomber. Il fait, chaque fois qu'il est en situation de crise, il fait une vérole. Bon, quand il passe de l'état ecclésiastique, au moment où il hésite sur le choix de sa sexualité, on le met sur une île en résidence surveillée. Il attrape sa première vérole avec une grecque, là, tout en travaillant en écrivant des mots pour l'officier. Et puis, après, il va rentrer dans l'église. Il va aller sur les petits trottoirs de l'église à Rome. Et en passant par là, il va s'arrêter à Orsara, où il va attraper une blénorragie de la part d'une bonne de curé. Et comme il fait partie de l'académie macaronique du coin, il va contaminer tout le pays. Le voilà génie civilisateur, si je puis dire. Et on voit vraiment chez lui le caractère bienfaisant d'une épidémie pour remettre la société en place. Et en même temps, il se fait lui. Voilà. Après, il va aller être confronté à l'ennui à Corfou. Nouvelle étape. Il devient militaire. Nouvelle vérole pour changer d'état. Au point même que tout ça, ce sont des petites véroles. C'est à l'époque, on appelle tout vérole. Mais quand il arrivera au milieu de la vie, quand il va décider de descendre, il va faire une vraie vérole. Ce sera la vérole de Londres, la syphilis. Et ça, ça le marque. Et ça le transforme pratiquement au martyr qu'il va devenir.
Il y a une thèse de Jean-Didier Vincent sur la vérole civilisatrice.
Oh, il y a un chapitre là-dessus. Oui, c'est la vérole.
C'est intéressant, ça.
Bah, écoutez, au XVIe siècle, là, on parle toujours Calvin, etc., Luther, Christophe Colomb. Mais ce qu'a ramené Christophe Colomb, c'est aussi la vérole. Et il y a eu quand même, au XVIe siècle, 20 millions de morts à peu près pour la syphilis. Hein. Donc le mal de Naples et tout ça. Et si vous suivez le cours de cette vérole à travers les siècles, vous verrez comme elle change de sens et combien elle est un élément de civilisation, bien sûr.
Alors, Jacques-Antoine Malarevitch, il y a une idée essentielle dans le livre de Jean-Didier Vincent. Je vous entends dessus et ne me dites pas que symboliquement vous êtes d'accord. À savoir, Jean-Didier Vincent nous explique que la maladie, comme il vient de le dire, mais aussi la perte du jeu, affecte en quelque sorte la vitalité du désir chez Casanova et qu'il va voyager, il va partir en quelque sorte pour réaffirmer ce désir qui s'émousse. Mais il donne... Alors, je sais bien qu'il ne franchit jamais le pas et qu'il ne tisse pas des liens entre l'expérience chez le rat et chez l'homme. Mais néanmoins, il y a une façon, en quelque sorte, d'évaluer le sujet Casanova à l'aune de ses sécrétions dopaminergiques. Ce sont des neurotransmetteurs. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'un peu déterministe qui vous gêne ? Ou qui disent que Casanova est tenu par son désir ?
Oui, j'ai l'impression que vous connaissez la réponse en me posant cette question.
Allez-y.
Alors oui, bien sûr. Mais je veux dire, de la même façon qu'une explication psychologique ou psychanalytique prend les aspects d'une prétention déterministe, effectivement. Donc j'essaye effectivement d'éviter cela. Pour reprendre cette histoire de maladie, Casanova dit « J'ai passé ma vie à travailler pour tomber malade lorsque j'en jouissais et pour travailler pour recouvrer ma santé lorsque je n'en jouissais plus. » Hein ? Donc, je veux dire, il n'y a pas de... Il se sert de la maladie. Hein ? Donc, il se sert de...
Absolument. Mais la dopamine, vous savez, la dopamine, ça sert à faire du désir. Alors, Casanova, quand il n'a plus les moyens d'entretenir sa dopamine, eh ben, il écrit ses mémoires. C'est une autre façon de laisser la dopamine circuler dans le cerveau. C'est comme le reste. Sans dopamine, bon, on est réduit à l'état de légumes. Donc, mais de là à ramener de Casanova à sa dopamine, non, ce serait enfin un rat. Mais il y a des dopamines de plus ou moins bonne qualité. La sienne est très bonne.
Jacques-Antoine Malarevitch, une dernière question. On vous a entendu donc sur Casanova. Vous vous refusez à quelques critiques que ce soit avec le regard du psychiatre qui est le vôtre. Alors je me suis demandé quel sens ça avait. Pourquoi vouloir absoudre absolument Casanova de toute lecture psychiatrique ? Et on peut se demander si Casanova était de nouveau parmi nous aujourd'hui, s'il ne chercherait pas à transgresser cet interdit critique, cette image un petit peu trop lisse que l'on donne de lui.
Probablement. Moi, si on essaie d'imaginer avec nos yeux maintenant Casanova, moi j'y verrais un mélange de tapis cultivés, de Clinton sportif, peut-être un peu de
solaire. Ça va pas être d'accord. Oui, là il sera d'accord.
Mais enfin, peut-être il n'accepte pas cette promiscuité. Mais enfin, je veux dire, il faut ajouter beaucoup de personnages les uns aux autres, effectivement.
Philippe Solers, en matière de psychanalyste, il a préféré épouser la psychanalyste plutôt que la subir.
Oui, c'est une bonne façon de faire.
Mais effectivement, c'est un bon exemple.
Alors, on lui demandera tout à l'heure ce qu'il en pense. Jean-Didier Vincent, merci. Je rappelle donc votre livre, Casanova, La contagion du plaisir, et le nouveau, La vie est une fable. Jacques-Antoine Malarevitch, merci.